Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On parle ce matin de la conférence climat, une émission enregistrée en deux temps, parce que justement, les temps changent. Fin septembre arrivait à Paris une caravane tout à fait étonnante. Il y avait quelques vélos à 3 ou 4 places. Et puis, toutes sortes de vélos, de toutes sortes de couleurs, formes, tailles et gabarits. Et des gens, énormément de gens qui affluaient à l'endroit prévu pour l'arrivée. C'était la fin d'une tournée qui a duré combien de temps, Tchetch ? Qui était initiée par Alternatiba ?
Ouais, pratiquement 4 mois. On est parti le 5 juin de Bayonne. Et voilà, et on est arrivé samedi et je n'en suis pas encore remis. Et non, c'était fabuleux. En plus, c'est arrivé, c'était vraiment l'apothéose avec, je crois qu'on était plus de 1500 vélos les 5 derniers kilomètres. Et puis, il y a eu des moments magiques. À un moment donné, on s'est retrouvé bloqué à un carrefour. Et puis là, il y avait, sur les triplettes, ces vélos à 3 places, il y avait Kadour, le chanteur d'Ashka et les Saltimbanques, celui qui a fait la On lâche rien et toutes ces chansons-là. Et puis là, il est descendu de vélo et puis il a commencé à improviser un concert. C'était incroyable. Et puis après, on est reparti et on ne savait pas trop qu'est-ce qui nous attendait à la Place de la République. Et là, on est arrivé tout. Et puis là, mais la Place de la République, noir de monde. Après, il y a eu le meeting. On nous dit qu'il y a eu entre 15 et 20 000 personnes. Mais en tout cas, on voyait une foule énorme à perte de vue qui bloquait toutes les rues, etc. Et c'était un truc incroyable, quoi. Et puis, c'était vraiment la fin d'un truc. En plus, ça nous faisait vraiment un pincement au cœur. D'ailleurs, on a pleuré quasiment ceux qui avions vécu ces 4 mois de vélo ensemble. Parce qu'on savait que le lendemain, on se séparait, etc. Et qu'on avait vécu un truc de fou, quoi. C'est-à-dire, tous les jours, tous les midis, tous les soirs, les après-midi, etc. On était à la rencontre de gens qui venaient vers nous et puis qui parlaient de changement climatique, qui parlaient des alternatives, etc. Et puis, en fait, qui démentaient complètement ce truc de tout le monde s'en fout. En fait, on voyait partout vraiment beaucoup de gens avec vachement et de volonté, d'imagination et de créativité. Et ça a été incroyable, même en plein mois d'août où on s'imaginait qu'on aurait un gros trou d'air du 1er au 15 août, etc. Et c'était énorme. On avait des communes en Bretagne où il y avait 1300 habitants, on avait 200 personnes qui nous attendaient à l'arrivée. C'était en pleine semaine. On n'en revenait pas. Et puis, entre nous, entre l'équipe, il y a eu toute une bande là qui vraiment... tous les jours, on avait une réunion où on se répartissait les rôles, les prises de parole, les conférences, la logistique, la réparation des vélos, le contact avec ceux qui nous hébergeaient. Tout le temps, pendant ces 4 mois, on a eu... quand même, je crois qu'on a comptabilisé 2400 personnes qui nous ont hébergés, qui nous ont nourris, qui ont organisé les conférences, les vélorussions, qui ont sorti des affiches, des tracts dans leur commune, etc. Et c'était incroyable, quoi. Et ça, c'était en plein été. Et en fait, on avait un meeting à l'arrivée où on prenait la parole. Alors d'abord, tous les cyclistes, et ça a été un moment incroyable d'émotion, où on disait tout ce qu'on avait vécu pendant ces 4 mois et ce qu'on avait vu, etc. Et puis après, on avait alterné et des gens d'ici qui bataillent par rapport à la mobilisation climatique, par rapport aux alternatives, et puis des gens du monde entier, comme Raja Gopal,
qui a organisé des marches en Inde.
Lui, de centaines de milliers de paysans, etc., qui donnait une espèce de résonance différente, évidemment, à ce qu'on avait fait. Les Pacific Warriors, qui viennent des îles du Pacifique, qui, eux, luttent pour leur survie, carrément, et à la fois des acteurs locaux. Et puis, à la fin, on terminait cette espèce de meeting par une montée en scène de plus de 50 personnes qui venaient, qu'on avait rencontré dans toutes ces étapes, alors qu'ils venaient soit de gens qui sont en train de construire les alternatives, les ateliers vélo, l'agriculture paysanne, les AMAP, les Enercop, les éoliennes, enfin 10 000 trucs comme ça, et puis aussi tout ce qui était dans des luttes de résistance par rapport à tous ces grands projets inutiles qui détruisent le climat, l'aéroport de Notre-Dame-de-Lande, la ferme des 1000 vaches, la centrale à gaz de Landivisio, etc. Et puis aussi des syndicalistes, des compagnons de maïs, etc. Et tout ça, ça faisait une espèce de mosaïque qui, en fait, décrivait à la fois ce qu'avait été le tour Alternatiba et puis aussi ce mouvement du climat qui peut, demain, dans les 5 ans à venir, gagner ces batailles décisives, non seulement si on veut stabiliser le climat, et ça, c'est un enjeu vital pour l'espèce humaine, pas pour la planète. Il ne s'agit pas de sauver le climat ni de sauver la planète. Il s'agit de sauver l'espèce humaine de conditions de vie barbares qu'entraînerait l'emballement du climat. Donc, sauver l'humanité de l'emballement climatique et en même temps construire un projet tous ensemble qui soit une société plus juste, plus partageuse, plus conviviale, plus sobre, plus humaine, parce que toutes ces solutions, toutes ces alternatives, c'est ça qu'elles dessinent. Et on le voit bien, nous, à chaque étape où on visitait des habitats partagés, de l'agriculture paysanne, des gens qui se fédéraient pour construire des éoliennes au nom de leurs enfants, avec leurs enfants comme actionnaires du projet, des communautés comme Longomaï, comme l'Arche, comme un squat énorme qu'on a eu à Bruxelles, où, qui nous a hébergés, où il y avait 70 personnes qui habitaient chacun, mais c'était un truc immense. Toutes ces choses-là qu'on voyait, qui fabriquaient un peu le monde de demain et de nouvelles formes de pensée, les relations humaines, etc. Parce que c'était ça aussi, c'est qu'on voyait bien que ce n'est pas une question technique. L'histoire du dérèglement climatique, c'est avant tout une question de choix de société, de relations, de sens, de reconnaissance. Et du coup, c'est ce qu'on essayait de dire à chaque prise de parole. On est confronté à un défi historique, sûrement le problème le plus grave auquel a à faire face l'humanité depuis qu'elle existe, mais en même temps, c'est une opportunité historique, celle d'arrêter de foncer vers le mur de ce qui casse toutes nos relations sociales, de tout ce qui aggrave les inégalités, les injustices qui provoquent cette désespérance, cette perte du sens qu'on sent tout le temps, avec de plus en plus de malheur, de déprime, et que là, on a en fait ce défi qui nous amène à un projet qui nous remplit de sens et de joie et de bonheur, parce que vraiment ça a été ça aussi le Tour Alternativa, c'était un truc incroyable où vraiment on était heureux en permanence, alors que c'était dur et que vraiment pendant pratiquement 4 mois on n'a jamais arrêté. On avait un jour d'arrêt, au début on l'appelait jour de repos, et en fait au bout de 3 semaines on l'appelait jour d'arrêt parce qu'on se reposait pas du tout. Il fallait nettoyer les freins, réparer les vélos, faire la réunion d'équipe pour préparer la semaine à venir, répondre à tous les mails qui s'étaient accumulés, etc. Et du coup, on s'arrêtait jamais, mais on était porté par un truc. Et puis la dernière dimension de tout ça, c'est le collectif. C'est que vraiment, quand un de nous craquait un peu et les autres prenaient le relais. Et d'ailleurs, ce symbole était bien trouvé, des vélos 3 places et 4 passes, parce que c'est la même chose sur les vélos. Quand tu n'en pouvais plus, tu te laissais porter par les autres et puis tout fonctionnait.
Tchad, j'aimerais que vous reveniez sur la façon dont ça s'est organisé, cette chose extraordinaire que vous êtes en train de raconter et dont on mesure l'ampleur. Mais comment est-ce que ça a démarré? Bon, ça a démarré par le village Alternativa à Bayonne, c'était il y a 2 ans maintenant.
Moins de 2 ans et on s'y était rencontrés. Et d'abord, il y a eu ce truc d'Alternativa Bayonne où, pour nous, et on nous prenait pour des fous. Hein. Quand on avait fait la conférence de presse d'Alternativa Bayonne devant notre presse locale à nous, et on leur avait dit, pour nous, c'est un événement déclencheur qui va en déclencher plein d'autres. Ils nous avaient regardé du style, t'es gentil.
C'était déjà pas mal. Attendez, il y avait quand même, vous aviez réussi à mobiliser tout un quartier de Bayonne, à le rendre entièrement piéton, à y installer des dizaines de stands qui, justement, parlaient de toutes ces alternatives qui concernent l'alimentation, la santé, l'énergie, l'habitat, l'échange, les monnaies. Enfin, c'était déjà quelque chose d'assez énorme, quand même.
Non, mais c'était super. Il y avait eu plus de 12 000 personnes. Bayonne, c'est une ville de 44 000 habitants. Et puis, Bayonne, c'est une ville qui est morte le dimanche. Et là, on avait rempli les rues, les places, etc. C'était extraordinaire. Et en fait, le soir, on était sur un petit nuage et on avait la même sensation que là maintenant, ce week-end, qu'après l'arrivée du Tour et Alternativa Paris et les 10 autres Alternativas qui ont eu lieu à Montpellier, Grenoble, etc. En fait, on avait cette même sensation que, clac, il y avait quelque chose qui s'était déclenché. Et du coup, cette espèce d'intuition, là, on l'a de nouveau et on sent qu'on passe à une autre phase. Donc oui, c'était génial. Mais moi, je parlais de la conférence de presse avant Alternativa Bayonne où les gens ne croyaient pas. Et en fait, dès le soir même, se sont déclenchées plein de choses partout. Et il y a eu 9 Alternativas qui ont eu lieu l'année suivante. Et puis aujourd'hui, on en est à 111 Alternativas. Donc la plupart en France, de Nancy à Marseille, partout.
Là, on n'est plus dans la tournée, c'est autre chose.
Non, c'est les villages des alternatives au changement climatique qui sont organisés pendant pratiquement un an par des milliers de bénévoles, d'associations, etc. Donc c'est une vraie dynamique sociale qui est en œuvre. et qui se coordonne, qui est une force collective. Et maintenant, on est même dans un débat collectif sur qu'est-ce qu'on devient à partir de 2016, avec plein de débats de fond sur comment on construit un mouvement pour la justice climatique et comment on gagne des batailles décisives dans les années à venir. Donc, c'est tout ça, hein, Alternativa. Et du coup, je disais, partout en France, mais aussi en Europe, puisqu'il y en a à Tonnerden, en Angleterre, à Bruxelles, Marbellan et d'autres coins en Belgique.
En Allemagne.
En Autriche, à Fribourg en Allemagne, à Bilbao, en Pays Basque Sud, en État espagnol, etc., etc. Et même maintenant, ça commence à Haïti. Et puis, on commence à être appelé par des gens d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc., qui nous commencent à nous parler d'Alternativa et est-ce qu'eux pourraient en faire un, etc. On leur dit, vous, vous décidez, nous, on a exporté assez de conneries dans notre histoire, l'Occident, et c'est pas nous à exporter des formules, donc voyez ce que vous voulez faire, etc. Mais en tout cas, il y a ce truc assez fabuleux, et le truc à la base de tout ça, oui, et c'est pour ça que je parlais de cette conférence de presse, c'est que nous, en fait, peut-être qu'on est un peu fou, mais on croit qu'on peut gagner la bataille du climat, alors que beaucoup de gens pensent que c'est perdu. On pense qu'on peut transformer radicalement cette société, et on pense qu'on peut le faire dans les quelques années qui viennent. Et pour nous, c'est vraiment... En fait, on reprend tout le temps une phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et nous, c'est vraiment la phrase qui nous inspire, parce qu'on n'a peur de rien, et du coup, on va à l'assaut de montagne. Et finalement, on les remporte, ces montagnes, on les soulève.
Mais oui, mais la question, c'est comment ? La force de conviction, elle est évidente. Mais comment, concrètement, est-ce que ce village Alternativa de Bayonne, il y a un peu moins de 2 ans, enfin il y a 2 ans maintenant, comment ça a généré cette caravane qui s'est mise en branle et qui a traversé des dizaines de villes et de villages, à chaque fois en créant un événement avec les gens du CRU ?
Mais d'après moi, il y a 2 choses. D'abord, on a commencé à organiser ça il y a 1 an et demi. Et ce qu'il faut savoir, c'est... Moi, je suis en train de parler là, mais c'est pas, moi, je n'ai pas participé à l'organisation de ça. C'était des jeunes, la plupart de Bayonne. Yannick, Bart, Sabrina, Alice et plein d'autres gens comme ça. Et j'en oublie, c'est injuste. Mais qui ont vraiment suivi haut et sang pendant 1 an et demi. Parce qu'il y a 1 an et demi, quand on a lancé cette idée de Tour Alternativa, on ne connaissait personne dans 90% des territoires qu'on a traversés. Et c'est eux qui sont partis à coup de téléphone, à chercher les gens, etc. Et puis à motiver les gens, etc. Autour d'un projet qui, finalement, comme il était fédérateur, comme il était ambitieux, comme etc., et du coup, ça a marché. Et du coup, ça te remplit d'optimisme parce que tu sens bien que, en fait, ce qui peut mettre en branle les gens, c'est aussi le fait de leur proposer des projets d'envergure et des projets qui leur paraissent à la fois ambitieux et réalistes.
Et aussi dans lequel ils trouvent leur place.
Ouais, bien sûr. Parce que là, c'était vraiment chaque étape qui était organisée par les gens du coin, et chaque étape a été différente. Et après, le concept, d'après moi, autant d'Alternativa que du Tour Alternativa, c'est d'arriver à fédérer toutes ces luttes, toutes ces alternatives, toutes ces résistances, qui chacune, sans même le savoir, c'est, moi j'appelle ça les Monsieur Jourdain du climat, parce qu'ils font du climat sans savoir qu'ils font du climat, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans savoir qu'il faisait de la prose. En fait, ils sont en train de lutter pour stabiliser le climat, pour freiner le dérèglement climatique en cours. Et en recyclant, en cousant, en faisant des ateliers vélo, en faisant du partage de biens matériels au lieu d'en acheter chacun plus à son niveau, etc., etc. Et tous ces gens-là, en fait, ils sont des milliers, des centaines de milliers, etc. Et les réunir autour d'un chapeau global, ça donne une autre dimension à l'affaire. Nous, on parle souvent avec notre ami qui est Germain d'Emmaüs Escar. On a souvent une formule, c'est tu rencontres quelqu'un qui est en train de tailler une pierre et tu lui demandes « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et s'il fait que tailler sa pierre, il te dit « Je taille une pierre. » Mais tu peux rencontrer une autre personne qui lui taille sa pierre et qui te répond « Je bâtis une cathédrale ». Et en fait, l'histoire d'Alternativa et de cette bataille du climat, c'est de donner ce sens de bâtir une cathédrale à tout plein de gens qui sont en train de tailler des pierres. Et du coup, là, ça te donne une autre dimension, une autre perspective, un autre niveau d'engagement et de détermination et un autre calendrier. Pourquoi ? Parce que la bataille du climat, elle va conditionner la manière de vivre sur Terre. Et elle se joue en ce moment, dans les 10 ans à venir. C'est-à-dire qu'il y a des seuils qu'on appelle les seuils d'emballement climatique qui se jouent dans les 10 ans, dans les 15 ans à venir. Et c'est en fonction de ce qu'on va faire ou ne pas faire là, dans les quelques années à venir, que le monde de 2040, de 2050 va être façonné d'une manière ou d'une autre. Et cette bataille-là, il n'y a pas d'autres générations qui vont pouvoir la rejouer. Parce que une fois ces seuils d'emballement climatique franchis, il n'y a aucune loi, aucune politique vertueuse, aucun changement de comportement des gens qui pourront revenir en arrière parce que c'est des phénomènes qui s'enclenchent de manière irréversible et qui, peu à peu, au cours des décennies, des siècles à venir, vont façonner le monde d'une autre manière.
Je pense que la prise de conscience, elle est là, en tout cas chez beaucoup de gens, de ce que vous décrivez, mais depuis Copenhague, ce qui prévalait, c'était plutôt une forme d'abattement, d'avoir pu constater l'impuissance ostensible des gouvernements, la façon extraordinairement tranquille qu'ils ont eue d'afficher leur incapacité à agir. Et il y a eu énormément de questionnements autour de qui allait prendre les rênes, avec évidemment la crainte que ça soit les puissances économiques qui s'en emparent, parce que de fait, on ne peut pas vraiment leur faire confiance pour résoudre ce défi-là. Mais avec aussi une inquiétude sur les formes que pourrait prendre un mouvement qui ne serait pas encadré par les institutions habituelles.
D'abord, pour finir, ce que je voulais dire, c'était que cette question-là, qui est avec ce truc énorme qui est en jeu et le calendrier urgent dans lequel tout ça se joue, pour moi, ça va façonner, et c'est en train de façonner, des militants et des militantes, des jeunes, qui sont prêts à tout donner pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à n'avoir rien à foutre de leur plan de carrière, de leur boulot, de... Et moi, je les ai vus sur ce tour Alternativa, c'était ça, ces jeunes-là. Je pense que c'est à peu près ressemblant aux gens, dans les années 60-70, les gens avaient un horizon assez rapide, où ils étaient sûrs qu'il y avait la révolution dans les quelques années à venir. Et quand tu es sûr que tu vas faire la révolution, tu t'en fous de ton plan de carrière, de tes études, etc. Tu es prêt à laisser tomber tout et à t'investir à fond dans ça. Et moi, je crois que l'enjeu climat est à peu près cet équivalent-là. Et ça, c'est nouveau, parce que dans ces 30 années, il n'y a pas eu ce truc-là qui permettait à toute une génération de se dire « tout est en jeu ». Et dans les années à venir, et donc on fout tout là-dedans. Et ça, ça va donner des choses différentes, et moi je le vois avec Alternativa. Par rapport à Copenhague, il y avait une grosse erreur stratégique, d'après moi, à Copenhague. Il y a eu plein de choses bien. À Copenhague, on parle d'un échec, mais moi, d'abord, je vais commencer par le bilan positif. C'est, un, ça a été les années 2007 à 2009, où ce problème du changement climatique s'est socialisé dans une grande partie de la population. Jusqu'alors, il n'y avait que les climatologues, il n'y avait que quelques milieux écologistes très réduits, il n'y avait que quelques décideurs politiques très, très restreints qui en avaient entendu parler. Et quand même, en 2009, ça a atteint le grand cercle de la population. Moi, je sais que dans ma famille, dans mon entourage qui est de droite, qui est pas du tout militant, ils en ont entendu parler vraiment à ces années-là. Il y a eu un autre acquis, c'était qu'il y a eu une convergence des mouvements habituellement environnementaux écologistes et des mouvements sociaux, paysans, syndicaux, qui se sont rendus compte qu'en fait, la bataille était à la fois sociale et écologique, et ça, c'était quand même un énorme plus de cette année 2009. Et il y a eu un troisième truc, c'est que le sommet de Copenhague s'est terminé par un échec, mais à partir de Copenhague et de cet électrochoc qu'il y a eu, partout dans le monde se sont multipliés les plans climatériques, au niveau des régions, des villes, des lois nationales qui ont enclenché des pas sur la transition énergétique. Quand on fait le bilan chiffré 2010, 2011, 2012, c'est incroyablement supérieur à toutes les années qui ont précédé. Donc il s'est quand même passé quelque chose, même si au niveau de l'accord international, ça a été un bide total. Et ça a été tellement un bide que cet engagement qu'ont signé tous les chefs d'État en 2009 à ne pas franchir le seuil qui est déjà trop grave de réchauffement à plus de 2 degrés, et je dis trop grave parce que l'Afrique, les îles du Pacifique demandent 1,7 degré parce qu'elles sont très très mal à ce niveau-là, et bien en fait, ce seuil qui était un engagement de tous les chefs d'État à ne pas franchir à l'horizon 2100, maintenant on sait que parti comme on est parti, et sans changement massif et rapide dans les quelques années qui viennent, on va le franchir entre 2035 et 2045, et ça personne ne dit aux populations, et ça c'est vraiment un scandale parce que les milieux gouvernementaux le savent et ils veulent pas le dire aux populations, et ça, ça entrave justement la mise en mouvement de toutes les énergies qui pourraient changer les choses et qui pourraient empêcher ça. Et ça, c'est grave. Et donc, 2009, la grande erreur stratégique, c'était justement d'avoir construit tout le mouvement, toute la mobilisation sur le fait que la solution, c'était un accord international, ambitieux, efficace, juste, contraignant sur le climat, comme si ça dépendait que des signatures de ces mêmes des 196 chefs d'État. Et du coup, d'une part, une fois que ça échoue, mais même si ça avait réussi, les gens ne se sentent pas du tout de prise à ce problème climatique et ne se sentent pas appelés à participer à cette bataille. Or, la bataille est évidemment au niveau de chaque territoire, de chaque population, de chaque collectif, etc. Et il y a énorme à faire. Et d'ailleurs, il y a énorme qui est fait. Et du coup, je pense qu'une partie du succès d'Alternativa, ça a été de prendre le problème par cet angle-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que tout un chacun peut faire, peut rejoindre, peut renforcer pour contribuer à cette bataille pour la stabilisation du climat et pour une transition sociale et écologique.
Ce qui est paradoxal et assez extraordinaire, c'est que cet angle-là, celui de ce que tout un chacun peut faire, est généralement considéré comme infinitésimal, dérisoire, accessoire.
Oui, sauf que ça ne l'est pas. Il y a deux choses. D'abord, ce n'est pas suffisant pour gagner la bataille du climat dans le calendrier qu'on a, c'est-à-dire dans les 10 ans à venir. Et on pourra tous trier nos déchets, mais s'il n'y a pas de loi sur l'obsolescence programmée imposant des garanties de 10 ans ou de 5 ans aux industriels, leur imposant de ne mettre sur le marché que des choses qui sont réparables avec les pièces d'entretien, si on peut tous commencer à faire du vélo pour aller au boulot, à l'école, faire ses courses, etc., mais tant qu'il n'y a pas des pistes sécurisées, et pas pour faire du sport ou du loisir, mais partout, et où qu'on peut y aller tranquillement avec ses enfants, etc., ça réduira forcément le nombre de gens. Tant que la plupart des aides seront fléchées vers l'agriculture industrielle, parce que c'est le cas aujourd'hui, évidemment, les produits d'agriculture paysanne et bio resteront plus chers pour le prolo moyen. Et puis, tant que il y aura 5 fois plus de subventions publiques aux énergies fossiles qu'aux énergies renouvelables, forcément, les investisseurs s'orienteront vers les énergies fossiles. Donc, il y a des mesures politiques à arracher et ça va être fondamental. Mais la bataille des alternatives est fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'on y expérimente le scénario global et on lui donne sa crédibilité et on lui construit sa base sociale. Et petit à petit, toutes ces alternatives commencent à peser dans le débat. Et moi, je prends toujours un exemple dans toutes les conférences qu'on a faites. On a fait au moins une conférence par jour pendant tout ce tour Alternativa, ces 4 mois. Et des fois, on en faisait 2 et 3, etc. Et petit à petit, les jeunes du tour Alternativa commençaient à les faire eux-mêmes parce qu'on n'était plus assez nombreux à les faire, etc. Et c'était vraiment. Et moi, je disais chaque fois, il faut se rappeler d'un exemple historique. C'est le mouvement ouvrier des années 1900 qui, à l'époque, il était assez faible. Et il portait des revendications qui paraissaient utopiques, comme les congés payés, la retraite, la sécurité sociale, etc., etc. Et ces revendications-là, il n'a pas fait que les porter par des meetings, des affiches, des grèves, des manifs, etc. Non, il a commencé à les expérimenter avec les premières mutuelles santé, les premières caisses de solidarité en cas de maladie, en cas de licenciement, etc. Et petit à petit, tout ça a fait le bloc qui a donné la base sociale, la crédibilité, la légitimité à ces choses qui, d'utopie, sont devenues des réalités dont on bénéficie tous aujourd'hui. Et moi, je crois que ces alternatives comme Enercop, comme la Nef, comme Terre de Lien, comme ces habitats partagés, ces communautés, ces ateliers vélos, etc., qui sont en train d'essaimer partout, aujourd'hui, petit à petit, sont en train de devenir une force sociale et de créer la société de demain. En fait, le monde de demain n'est pas inventé, il existe déjà. Il faut juste développer, le renforcer. Et en fait, c'est la base sociale du mouvement qui va remporter la victoire ou la bataille globale.
Il y a une chose qui m'a frappée au cours de cet été 2015, c'est à quel point le corps est redevenu présent et a joué un rôle fondamental. Il y a eu ces 4 mois à vélo auxquels vous avez participé, mais il y a eu aussi énormément de marches qui se sont mises en branle, qui ont traversé des secteurs entiers du pays. C'était pour lutter contre le TGV Lyon-Turin. Ça pouvait être aussi pour aller à Bure, protester contre l'enfouissement des déchets radioactifs. Il y a eu ces rencontres aussi à Notre-Dame-des-Landes, qui toutes impliquaient des marcheurs et aussi des gens qui donnaient de la voix. C'est-à-dire que la voix aussi était revenue. Et je crois que un des moments très fort de l'arrivée de la tournée Alternativa à Paris, c'était cette batucada qui était particulièrement puissante, forte, qui était une sorte de démonstration, mais éclatante, de ce que des corps peuvent provoquer dans leur milieu lorsqu'il y a cette volonté qui est derrière.
Ouais, et pour en chérir dans le même sens, il y a des trucs qui m'ont frappé. Alors, c'est décousu ce que je vais dire, mais par exemple, il y avait un truc, c'est que partout dans tous les États, on voyait plein d'alternatives, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup portait sur l'alimentation. Et soit les végétariens, soit l'agriculture paysanne, les amables. Enfin, il y avait tout un panel de choses qui étaient reliées à ça. C'est-à-dire et qui nous rappellent que quand même le fondamental de nos vies, c'est de manger et de boire. Et donc, de quelle manière on mange et on boit. Et après, l'autre chose, c'était pour moi tout ça quand même une histoire d'amitié où d'une part, en fait, on était quasiment tous les jours avec cette espèce de deuil où on quittait des gens qu'on venait de connaître, mais qui nous avaient hébergés, mais qui avaient été fabuleux. Et puis, on se dit, merde, on doit les quitter. Collectivement, tout le groupe, on est en peine. Et là, on se disait tous, putain, les 10 prochaines années, il faut qu'on reparte, etc. Et ça s'est retrouvé au meeting final, la dernière scène, tu vois, c'était tous les cyclistes qui avaient fait au moins une ou deux semaines de tour. On s'est retrouvés sur la scène, et là, il y avait la prise de parole, lue par 4 jeunes cyclistes. Et à la fin, là, quand on s'est vus là, et merde, c'est le dernier moment où on est ensemble. Et là, tout le monde a commencé à s'embrasser, à pleurer, et à vivre un moment ultra fort. Et ça, c'est pas anecdotique, parce que pour moi, ce qui va faire qu'on va gagner la bataille contre ce système, parce que nous, on pense qu'on peut changer de système. On le disait là, dans la prise de parole, c'est que c'est incroyable que dans nos sociétés, dans l'imaginaire collectif des gens, les gens se disent, s'adaptent plus à l'idée que nos conditions de vie civilisées, ce climat stable qui dure depuis 10 000 ans peut disparaître. C'est plus facile pour eux d'imaginer ça que d'imaginer que ce système capitaliste, qui n'a pourtant que quelques centaines d'années, puisse être changé. Et nous, on dit, mais attends, un système qui est récent, sporadique, ponctuel, peut être changé si l'espèce humaine, justement, est en danger. Et du coup, on pense qu'on peut le changer. Mais pour changer ça, il faut proposer à l'humanité, à la société, un projet qui les attire. C'est pas en leur faisant peur, c'est pas en leur disant « waouh, la contrainte, etc. » C'est qu'en créant quelque chose de beaucoup plus attractif que la publicité, que la société de consommation, que ce plaisir immédiat qu'on offre partout, etc. Et ça, c'est l'amitié, c'est ce lien ultra fort qui fait vivre quelque chose d'incroyablement intense et qu'il faut fabriquer dans nos luttes, nos campagnes, nos manières de batailler. Et je crois que le Tour Alternativa, c'était aussi ça, c'était, et on l'a vu, quoi, avec cette attraction de plein de gens nouveaux, c'est qu'ils y trouvaient leur compte et leur sens et que c'est la manière de gagner cette bataille. Il faut faire ça à tous les niveaux.
Cet entretien avec Tchetch avait été fait lors de l'arrivée d'Alternativa, le Tour de France à Paris. C'était fin septembre. On a l'impression d'une autre époque, presque d'un autre pays, d'une autre histoire. On avait remarqué à l'époque à quel point il y avait eu une sorte de montée en puissance des mouvements qui étaient concernés par la question du changement climatique et également par les questions de grands projets inutiles, etc. Et quand je parle de mouvement, vraiment, c'est ça qui nous avait frappé. On en a parlé avec Tchetch. Le fait que les gens s'étaient mis en marche. Ils s'étaient mis debout et ils s'étaient mis à marcher un peu partout en France. Et on avait le sentiment de quelque chose qui montait et presque l'impression que cette fois, ça allait être possible véritablement de donner à la question du climat l'ampleur qui est la sienne, de la faire apparaître. Et cette conférence climat qui était annoncée à Paris pour le mois de décembre était une sorte de moment d'opportunité extraordinaire, une fenêtre pour arriver à faire en sorte que les choses bougent enfin et peut-être même réussir à faire bouger les gouvernements. La société en tout cas y était prête et elle s'était préparée depuis déjà plusieurs mois, voire même plusieurs années. Juliette Rousseau, vous êtes aujourd'hui à la tête de ce qu'on a appelé la coalition Climat 21. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment cette coalition est née et de qui ?
Cette coalition, elle est née en fait en 2014 et elle est née très particulièrement à la suite du sommet de Varsovie, au cours duquel en fait la société civile, ONG, syndicats et les deux principaux courants d'ONG au sein de l'espace officiel avaient décidé de claquer la porte des négociations de façon assez médiatique pour dénoncer la présence grandissante des lobbies de l'industrie des énergies fossiles.
Vous pouvez nous donner les noms de ces ONG ?
Alors, celles qui ont créé à l'origine la coalition climat en France, c'est le RAC, le réseau Action Climat, qui fait partie du réseau CAN, Climate Action Network, ATAC, qui fait partie du réseau CGN, Climate Justice Now, et les syndicats, et le CRID, qui est une plateforme d'ONG de solidarité. Et puis très rapidement, cette coalition donc s'est créée dans l'objectif d'organiser des mobilisations au moment de la COP21 et de se servir du moment de la COP21 comme d'un catalyseur d'énergie pour faire avancer ce mouvement pour la justice climatique en France. Très vite, un certain nombre d'organisations les ont rejoints et aujourd'hui, la coalition Climat 21 compte plus de 130 organisations avec une grande diversité dans les approches. Donc des syndicats, des ONG environnementales, des ONG de solidarité internationale, mais aussi des luttes locales contre les grands projets inutiles, des mouvements sociaux, ce qu'on appelle des groupes de foi, des groupes d'éducation populaire, etc., etc.
Cette hétérogénéité extrême, est-ce qu'elle a été plutôt un atout ou une difficulté ?
Je pense que la force de cette coalition, ça a été d'emblée de dire, et c'est pour ça que je faisais référence au sommet de Varsovie, ça a été d'emblée de reconnaître que les COP, si elles sont un moment important de la lutte contre le réchauffement climatique, elles ne sont pas une fin en soi, et que l'enjeu aujourd'hui des mouvements sur la justice climatique est bien de construire un agenda propre qui n'est plus articulé autour de ces sommets, mais s'articule autour de ses propres mobilisations, de ses propres luttes. Et finalement, ce qui a permis à cette diversité d'exister ensemble, ça a été justement de reconnaître la nécessité de mobiliser dans la rue comme la vraie priorité, en fait, du mouvement. Et une fois qu'on a reconnu que la mobilisation, c'était la priorité, je pense qu'on est capable de travailler avec la diversité. Et effectivement, on a à la fois une diversité d'approches, d'historiques, de pratiques militantes, et qui résulte en une diversité de tactiques, mais qui finalement peut cohabiter dans la mesure où on considère que la priorité aujourd'hui, c'est de constituer un mouvement large, un mouvement inclusif pour la justice climatique.
Mais ce qui est étonnant, Juliette Rousseau, c'est que dans cet échantillonnage très large que vous avez évoqué, il y a certaines composantes dont on sait qu'elles ont vraiment l'habitude de négocier directement avec les instances gouvernementales, enfin avec les autorités élues.
Mais je pense que ça ne s'oppose pas, finalement. Ce qui était fort, c'était de réussir à reconnaître que, pour certains, l'accent va être mis sur les mobilisations de rue, et que ces mobilisations-là, on les soutient tous, mais que ça n'empêche pas le travail d'autres, qui est un travail de plaidoyer, qui est un travail, effectivement, de suivre les négociations, de faire pression, etc.
Et donc, pourquoi vouloir se tourner vers la rue ? Qu'est-ce que la rue pouvait apporter, là ? Vous avez remarqué que je parle au passé, c'est terrible.
Je pense que c'est d'autant plus frappant maintenant, finalement, dans ce contexte d'état d'urgence où on a... Je l'ai souvent dit ces derniers jours, où quand Manuel Valls déclare « on va réduire la COP21 à ce qui est essentiel » et que nous, on nous annonce derrière « vos mobilisations n'auront pas lieu », le message qu'on lance, c'est bien de dire que finalement, l'affaire du climat va être réglée par des gens dans un espace fermé, accrédité par un nombre limité de personnes. Et finalement, le message qu'on envoie, c'est « cette crise climatique qui vous menace tous, nous, on va s'en occuper ». Or, ce qu'on sait après 20 ans de négociations, c'est que très franchement, on s'en occupe pas très bien. Et je pense que se tourner vers la rue, ça veut dire reconnaître que l'affaire du climat est l'affaire de tous et qu'elle ne peut pas se résoudre uniquement dans des sommets internationaux, mais qu'en fait, c'est à tous les niveaux, au niveau domestique, au niveau national, au niveau local, c'est dans tous ces niveaux-là qu'il faut, de la part, je pense, des mouvements sociaux, exercer une vigilance permanente, exercer un rapport de force pour s'assurer qu'on ait des décisions politiques qui aillent dans le bon sens. Je pense que, par exemple, on parlait des grands projets inutiles. Le fait qu'un mois avant la COP21, encore une fois, Manuel Valls déclare que le gouvernement allait bien construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ça illustre bien le fait qu'on a besoin aujourd'hui, en tant que mouvements sociaux, d'être actifs à tous les niveaux et de faire en sorte que le prisme du climat s'applique aussi à d'autres luttes qui sont éminemment liées, mais qu'un discours officiel aurait tendance à diviser.
John Jordan, Isabelle Frémaux, on se revoit un peu en urgence ce matin. On avait... fait déjà une interview qui va partir à la poubelle, puisqu'il s'agissait de parler de ce que vous aviez organisé dans le cadre de cette grande convergence que Juliette Rousseau vient de nous dépeindre. Vous êtes, vous, des tenantes de ce que vous appelez l'art activisme, cette volonté de trouver des formes créatives, d'inscrire la résistance, la lutte, l'engagement dans l'agenda, justement. Vous aviez, depuis des mois, organisé énormément d'événements qui devaient se tenir pendant la semaine de la conférence climat. Alors là aussi, j'emploie le passé, mais en vérité, je ne sais pas ce que vous allez me répondre. Ce qui est clair, c'est que la chose telle qu'elle avait été envisagée n'est plus possible. Isabelle Frémaux.
Ce qu'on avait prévu notamment, c'est un concept, une plateforme qui s'appelle les Climate Games, donc qui consiste à former des équipes pour organiser des actions à Paris, en ligne et dans toutes les villes de France et d'ailleurs, pour s'adresser aux racines du changement climatique et utiliser une plateforme internet avec une carte interactive qui est aussi utilisable sur les smartphones pour pouvoir à la fois mettre des cibles pour les actions, donc que tous les participants et participantes puissent mettre des cibles que les équipes elles-mêmes ou d'autres équipes pourraient utiliser pour faire des actions.
Quand vous parlez de cibles, il s'agissait bien évidemment d'actions non violentes.
Bien entendu, c'était uniquement pour faire des actions qui ne mettaient personne en danger. Nous n'avons jamais eu l'intention de créer un climat de frayeur ou de mettre qui que ce soit en danger, mais nous défendions et continuons à défendre l'importance de la désobéissance civile, parce que pour rebondir sur ce que vous disiez avec Juliette, l'importance de la rue et l'importance de la désobéissance, moi, il me semble qu'elle tient dans le fait qu'aucun des droits dont on peut jouir dans notre société n'a jamais été obtenu autrement que par la désobéissance civile et que face au changement climatique, il nous est important de garder cette histoire-là en tête. Et que donc, il est bien évident que dans le cadre de l'état d'urgence, après les attaques du 13 novembre, on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas d'importance et donc il faut être extrêmement responsable, extrêmement respectueux de la douleur des familles de victimes et des victimes qui ont été blessées et en même temps ne pas se retrouver dans un état de stupeur tel qu'on abandonne toutes nos libertés et notre capacité à réagir face à ce qui reste une urgence absolue qui est l'urgence climatique. Donc les Climate Games, nous avons pris la décision de les maintenir dans un esprit, comme je disais, de respect pour ce qui s'est passé, dans un esprit complètement responsable, mais en gardant à l'esprit que tout ce qui faisait la légitimité de cette lutte jusqu'au 12 novembre, ça n'a pas changé. La lutte pour la justice climatique, elle n'est pas moins légitime parce qu'il y a eu des attaques à Paris ou à Beyrouth.
John Jordan ?
Et peut-être elle est même plus importante, en fait, parce que maintenant, je pense qu'en anglais, on a ce terme « join up the dots », relier les points, en fait. Et je pense qu'en ce moment, si on voit le rôle du pétrole dans le cycle de la violence, c'est assez clair. La guerre du pétrole pour l'Irak, la construction d'Al-Qaïda autour de tout ça. Et puis on regarde en Syrie, la guerre civile en Syrie, une guerre qui était en fait créée. Un des enjeux là, c'était la sécheresse et les agriculteurs qui devaient venir en ville. Alors, on peut vraiment voir des liens entre le pétrole, la sécheresse, le réchauffement climatique et le cycle de violence qui prend place en ce moment. Et en fait, je pense qu'il y avait une énorme peur du gouvernement français que, pour la première fois, moi je pense que ça fait 25 ans que je milite, c'est la première fois que j'ai vu une coalition aussi divers appelée à soutenir une action de désobéissance. C'est hyper rare. Je pense qu'il y avait énormément de peur que leur COP allait avoir un conflit social dans la rue et que c'était pas seulement les multinationales et les gouvernements qui allaient gérer ce problème. Un truc que j'ai trouvé absolument dégueulasse, c'était quelques jours après les attentats, le premier Twitter qui est sorti officiellement de la COP21 du gouvernement français, c'était « Paris encore debout et mobilisé pour la COP21 ». Et le lien, c'était la foire des solutions COP21, qui est la grande foire de tous les multinationales qui présentent des fausses solutions comme la géo-ingénierie, le nucléaire, les marchés du charbon, etc. Sponsorisé par des banques, un truc horrible. Et c'est comme Juliette le dit clairement, il ne veut pas que les citoyens s'en mêlent avec l'enjeu du climat. Et que nous, on sait qu'en fait, la seule façon, même l'accord, s'ils signent un accord, ça va jamais être un accord qui a du sens. Ça va être encore une sentence de mort pour les pauvres et pour la planète. Et que c'est seulement les mouvements sociaux, les mouvements qui, avec nous, on pense avec leur corps désobéissant, pourront en fait faire le travail qui est de garder 80% des fossiles sous la terre.
Oui, parce qu'effectivement, John Jordan, ce fameux tweeter, émanait finalement de ce qui est le programme officiel de la COP21, de cette conférence sur le climat à Paris. C'est-à-dire qu'en effet, ce sont les multinationales, en effet, ce sont les solutions de style géo-ingénierie, etc. Et en effet, ce sont des marchandages entre gouvernements pour savoir si on va baisser de 0,04% ou 0,05% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, de fait, c'est par rapport à tout cela que vous appelez à la désobéissance civile, comme vous l'appelez. Ce qui est quand même frappant quand on y pense, c'est que ce qui aujourd'hui vous empêche ou vous entrave, on va dire, dans le programme qui est le vôtre, ce ne sont pas véritablement les attentats, même si, de fait, c'est ce qui est le plus bouleversant. Ce qui empêche, c'est une interdiction émanant d'un État, justement. Et c'est une interdiction qui est d'autant plus surprenante, on peut le dire, que au lendemain, précisément, des attentats, on recevait un mail à Radio France nous informant que tout va bien, le salon Millipol est maintenu et ouvrira ses pôles. Le salon Millipol, c'est le salon de la sécurité intérieure des États, donc militaire, policier. On apprenait 3 jours après que les marchés de Noël sont maintenus. On apprenait qu'il fallait absolument tout faire pour aller consommer dans les grands magasins. Donc il fallait à tout prix sauvegarder la consommation. Et même, ça va même au-delà, les matchs de foot étaient maintenus après le Stade de France. Les concerts étaient maintenus après le Bataclan. En revanche, les manifestations organisées pour donner l'avis de la population sur les changements climatiques, ce qu'il convient de faire et surtout de ne pas faire, ça, c'est interdit. Juliette Rousseau.
Quelques jours après les attaques du 13 novembre, on s'est tous retrouvés dans un espace artistique pour essayer de penser la suite. On était, je ne sais pas, une cinquantaine. Et moi, j'ai trouvé que c'était, personnellement, le moment où j'ai commencé à me sentir un petit peu mieux, finalement, parce qu'on était ensemble. Parce qu'en fait, on avait tous eu peur, on était tous blessés, on était tous inquiets de cette situation qui était déjà en train d'advenir en termes d'état d'urgence et de restriction de nos libertés. Et je me suis vraiment dit à ce moment-là, quelque part, moi j'ai le sentiment que ces attaques, elles ont cassé quelque chose en nous, que l'état d'urgence vient pas du tout guérir, au contraire qu'il vient asseoir. Et que la seule façon de se guérir de ce qui nous est fait, c'est l'action collective. Je pense que la résilience du collectif qui a été attaqué, elle vient par l'action collective. Moi, je ressens vraiment ça aujourd'hui, c'est-à-dire, on n'a pas forcément de certitude sur les méthodes et les outils de la résistance, mais il est certain, je crois, aujourd'hui, que la meilleure façon pour nous de nous reconstruire suite à ce qui s'est passé et face à ce que l'on est en train de nous faire, c'est vraiment de s'organiser collectivement.
Et de fait, on a vu arriver les uns après les autres des communiqués disant que les manifestations étaient maintenues, que les regroupements étaient maintenus. Le convoi qui est parti de Notre-Dame-des-Landes est en route pour arriver à Paris. D'autres marches sont également en route. Et il reste également cet objectif de faire quelque chose pour le dernier jour de la conférence, c'est-à-dire le 12 décembre, pour, c'était cela que vous disiez, je me souviens, ne pas leur laisser le dernier mot, que la société ait le dernier mot. Donc, aujourd'hui, Juliette Rousseau vient de le dire, c'est très important d'être dans l'action collective. J'imagine que vous le faites avec un sentiment de responsabilité encore plus aigu, Isabelle Frémaux.
Bien entendu. Et qu'on ne va pas cacher non plus qu'il y a eu un très long moment de flottement duquel on commence tout juste à sortir pour trouver les formes et les moyens d'une action collective qui resterait responsable, je dirais, et respectueuse, de ne pas non plus appeler les gens à faire des choses qui leur feraient courir des risques qui soient excessifs. Ce qui me paraît important à garder à l'esprit, c'est que il y a vraiment une tendance de la part des autorités et beaucoup de médias à faire le portrait d'activistes comme s'ils ne faisaient pas partie des gens normaux. Et en fait, moi, ce qui me paraît très important de rappeler à chacun chacune, c'est que dans toutes les personnes, notamment la cinquantaine de personnes dont Juliette vient de parler, qui s'étaient réunies pour vraiment trouver des formes pour répondre à cet état d'urgence, aux attaques, à l'urgence climatique, il y avait beaucoup de personnes qui ont perdu des êtres chers et qui étaient là quand même. Et que nous ne sommes pas une population séparée. Et je pense que c'est là c'est là qu'est la force, c'est aussi là qu'est la menace, comme l'ont dit John et Juliette, c'est que ce mouvement, c'est vraiment un mouvement populaire, divers, il y a vraiment une convergence qui s'est effectuée et que c'est ce qui essaye d'être toujours présent dans les appels pour les chaînes humaines du 29, les réponses le 12, et que les formes qui seront trouvées seront des formes pour continuer à avoir le dernier mot, pour pouvoir dire cette urgence climatique, elle nous tient toujours à cœur, elle est toujours là et on ne peut pas faire que ce soit sans nous.
John Jordan.
Et c'est dans ces moments comme ça où, en fait, la créativité, on a vraiment besoin non seulement d'être ensemble, mais aussi d'être créatif avec nos formes, en fait. Un attroupement, c'est plus de deux personnes qui partagent un message politique. Alors, en ce moment, on essaye de réfléchir comment est-ce qu'on peut jouer avec la loi, en fait, trouver des failles, en fait. Comme tout est désobéissant maintenant, et en fait, ce qui était intéressant avec le 12, c'était, nous, on avait plein d'appels téléphoniques, des gens qui venaient, et pour eux, c'était la première fois qu'ils allaient faire de la désobéissance civile. Et on va trouver des formes qui ont de la puissance, mais qui jouent avec les failles.
Alors, difficulté supplémentaire, et on va s'arrêter là, ça devient, j'imagine, très difficile de communiquer de manière publique et large sur ce que vous souhaitez faire. Donc, comment est-ce que les auditeurs peuvent s'informer? Juliette Rousseau.
Deux éléments de réponse. Le premier, c'est, comme l'a dit John tout de suite, aujourd'hui, de toute façon, si on veut faire quelque chose dans la rue, on est dans la désobéissance. Et du coup, se pose la question de savoir, est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on utilise des mots qui, aujourd'hui, sonnent presque comme des gros mots? On ne peut pas franchement dire qu'avant, de toute façon, ils étaient très acceptés, mais là, c'est clair que c'est encore plus difficile. Notre lutte, elle n'a pas changé depuis le 13 novembre. C'est le contexte qui a changé, mais nous, on défend toujours les mêmes choses, donc je crois vraiment qu'on ne doit pas changer le vocabulaire. Plus pratiquement sur la façon dont on peut s'informer, eh bien, les informations, on les fait circuler dès qu'on les a, on envoie des communiqués de presse, surtout on a des sites internet, hein, les Climate Games en ont un, la Coalition Climat 21 en a un aussi, et donc sur ces canaux-là, on informe de toutes les évolutions, et c'est vrai que les évolutions aujourd'hui, elles sont quotidiennes.
En 2011, nous avions parlé d'une pièce de théâtre intitulée « Avenir radieux, une fiction française », une pièce consacrée au nucléaire qu'on devait à Nicolas Lambert. Il l'avait conçue et proposée, présentée une semaine avant l'accident de Fukushima. Cette année, voici qu'il vient avec le troisième volet de sa trilogie, un volet consacré au commerce des armes.
Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, groupe socialiste citoyen radical divers gauche.
Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le premier ministre. Elle concerne l'attentat de Karachi, au Pakistan, en 2002, qui a coûté la vie à 11 salariés des chantiers navals de ma ville de Cherbourg, plongeant à tout jamais dans la détresse des veuves et des orphelins. Il y a quelques semaines, le président de la République a qualifié de fable l'hypothèse d'un lien entre cet attentat et la vente d'armes de guerre issues de nos chantiers navals. De nouveaux éléments sont diffusés par voie de presse depuis quelques jours. Des dirigeants des chantiers navals établissent de façon assez précise un système de commission et de rétrocommission qui aurait pu bénéficier à des politiques français. Y a-t-il, oui ou non, monsieur le Premier ministre, un système de commission adossé à ce contrat de vente d'armes de guerre?
Merci, monsieur le député. La parole est à madame Michèle Alliot-Marie, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés.
Nicolas Lambert, vous avez vraiment l'art de l'à-propos, sortir une pièce intitulée « Le maniement des larmes » sur les commerces d'armes, grande spécialité du terroir, comme vous l'appelez, en cette période. C'était évidemment pas prévu.
Non, après, bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui était vaguement prévisible, c'est-à-dire que on pouvait difficilement imaginer que nos activités n'entraînaient pas de réponse. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse être complètement surpris de ce qui se passe. Par contre, on peut être assez bluffé par la réponse institutionnelle qui consiste à déclarer aujourd'hui que nous sommes en guerre. En tout cas, quand l'exécutif, le président de la République, annonce comme ça que nous sommes en guerre quelques heures après des événements terroristes dans la capitale, c'est assez étonnant et assez effrayant, puisque c'est le chef des armées qui nous annonce que nous sommes en guerre. Si le chef des armées dit que nous sommes en guerre, c'est que nous sommes vraiment en guerre. Or, nous sommes en guerre contre quoi? Contre qui? Ça reste assez flou, ça reste reste assez peu déterminée, et décréter un état d'urgence qui nous lie, qui nous empêche aujourd'hui d'avoir la moindre manifestation de désapprobation est assez audacieux. Je pense à une phrase qui est dans le spectacle que j'ai emprunté à Michel Rocard. J'avais entendu cette phrase-là un jour à l'Assemblée nationale. J'avais eu la chance d'être là. Et Michel Rocard disait « La guerre est une volonté de civils fous ». Et je crains que on soit dans une configuration très proche de celle qu'il décrivait.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre spectacle tombe à point nommé. On a besoin aujourd'hui de savoir un peu mieux ce qui se passe. Et fidèle à votre habitude, vous avez fait du théâtre documentaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'une fiction, mais d'une sorte de collection de citations d'un éventail extrêmement large de personnalités connues, moins connues, et d'une manière très habile, comme toujours, de tricoter les événements, les faits, pour qu'on puisse un peu mieux, sinon comprendre tout à fait, mais en tout cas percevoir les coulisses extrêmement sombres de ce commerce-là.
Oui, et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le domaine dont vous vous occupez ici, à Terre à Terre, n'est pas éloigné de ce monde des armes. Il semble bien que quand un président de la République vend une centrale nucléaire et des avions de guerre en même temps à un pays comme la Libye, par exemple, pour donner cet exemple-là, on ne peut pas ne pas imaginer qu'il puisse y avoir, par exemple, des détournements de certaines compétences que l'on peut acquérir en maîtrisant le nucléaire civil. On ne peut pas, en tout cas, ne pas imaginer que quand on vend à des pays qui sont très sensibles des centrales nucléaires civiles, comme on dit...
Pour désaliniser l'eau de mer.
Par exemple, quand on essayait d'en vendre à M. Kadhafi, on ne peut pas ne pas imaginer que ces centrales nucléaires, dans ces lieux-là, puissent devenir des cibles privilégiées pour des actions terrifiantes.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et un certain nombre de liens utiles. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Genepin, revue de web Anne Gouzon, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.